On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre. On ne dissout pas un dérèglement planétaire. On n'efface pas par décret les constats scientifiques ni le refus d'un capitalisme radicalisé fonçant dans le mur. Loin des procès en écoterroristes, ce qui se joue autour du mouvement des soulèvements de la Terre n'est rien d'autre que la bataille de ce siècle. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés au soulèvement de la Terre. On écoute Christophe Bonneuil, historien des sciences et directeur de recherche au CNRS, qui nous parle du mouvement des soulèvements de la Terre et de l'origine de cet ouvrage.
On a été une quarantaine d'autrices, d'auteurs, d'universitaires et de militants écologistes à vouloir faire une sorte de cartographie du mouvement, de ses concepts, de ses pratiques, pour montrer que c'était pas du tout un mouvement éco-terroriste et pour montrer qu'il y avait urgence écologique. Alors vous avez des auteurs comme Philippe Descola, l'anthropologue du Collège de France, les scientifiques en rébellion qui ont écrit l'article Urgence climatique, Baptiste Morisot, le philosophe de vivant, Virginie Maris, qui est également une philosophe de la biodiversité, et puis des auteurs qui animent les cantines de ces luttes des soulèvements de la Terre, une blessée de Sainte-Soline qui est de Grenoble, qui est une toute jeune étudiante qui a été blessée à la mâchoire à Sainte-Soline, qui témoigne. Voilà, l'idée c'était de faire une quarantaine de textes qui expliquent quels sont les enjeux aujourd'hui. Et l'originalité de la pensée politique des soulèvements de la Terre, c'est justement de repositionner la question environnementale depuis les questions des terres, de qui s'approprie la Terre, qui les utilise, qui les artificialise, qui les fait produire d'une façon qui ne renouvelle pas les ressources. Et donc c'est effectivement une façon de voir la question écologique non pas de façon abstraite en disant il faut pas dépasser les 2 degrés, de se donner des objectifs comme ça un peu abstraits qui sont finalement décourageants. On sait pas trop quoi faire quand on a des chiffres comme ça planétaires, on se sent tout petit. Et la proposition politique des soulèvements de la Terre, c'est de retraduire ces enjeux planétaires en une volonté de reprendre la Terre aux intérêts économiques qui l'utilisent de façon destructive. Et donc effectivement, l'originalité, c'est de partir de lieux précis, de territoires précis. Il y a eu toute une lutte dans les années 2010 autour de Notre-Dame-des-Landes, plus proche de nous à Roibon. C'est à partir de la défense de lieux précis dans lesquels des générations décident d'habiter, de s'installer, d'accueillir le vivant, de produire autrement. Il y a vraiment ce projet-là qui n'est pas donc uniquement un projet destructeur négatif, un projet d'opposition, mais qui est aussi un projet de réhabiter le monde, réhabiter des terres d'une façon qui ne soit plus destructrice. La caractéristique des soulèvements de la Terre, c'est que c'est pas un mouvement d'écolo urbain. La Confédération paysanne, l'Atelier paysan, d'autres structures du monde rural sont très actives parmi les 200 associations qui étaient à l'origine des soulèvements de la Terre. C'est vraiment une fédération qui regroupe beaucoup d'associations locales et beaucoup de structures paysannes. C'est vraiment l'idée, c'était pas de faire 40 fois pourquoi tel intellectuel soutient les soulèvements de la Terre. C'est vraiment de faire une cartographie des concepts, des enjeux, des problèmes, des tactiques et des pratiques de ce mouvement. Vous avez un chapitre sur la question du soin, un chapitre sur la notion d'arrière-base, un chapitre sur les cantines, parce que dans le mouvement des soulèvements de la Terre, il y a un regroupement de personnes qui font bénévolement la cuisine et qui sont capables de nourrir, de faire des repas pour 8000 personnes. Donc ça suppose toute une organisation, une collecte d'aliments auprès des fermes qui soutiennent le mouvement. Il y a vraiment tout un élan de toute une solidarité derrière le mouvement.
C'était donc Christophe Bonneuil, directeur de recherche au CNRS, qui nous présentait l'ouvrage « On ne dissout pas un soulèvement ». Et on continue avec les lectures de François Grange, membre du comité des soulèvements de la Terre de Romans-sur-Isère. Alors avant d'y venir, on va quand même rappeler un peu le contexte national sur les soulèvements de la Terre, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, un communiqué national est parti, c'est que les soulèvements de la Terre n'ont pas été dissous. Donc après plus de 6 mois de bataille acharnée, la dissolution des soulèvements de la Terre, décidée par le gouvernement à la demande de la FNSEA, a été annulée jeudi dernier par le Conseil d'État. C'est une annonce au parfum de victoire qui ne doit pas nous faire oublier que les camarades de la Galle et du CRI ont subi le sort de la dissolution. Donc c'est encore difficile de se rendre compte que cette séquence est bel et bien derrière nous et que nous souhaitons remercier avec émotion toutes celles et ceux qui se sont soulevés pour refuser ces atteintes liberticides. Donc ça, là, je lisais un extrait du communiqué national. C'est quand même quelque chose qui va faire précédent, quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le comité national et du coup tous les comités locaux vont être regonflés par cette période. Comme il le disait là, dans un des slogans, ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Les graines du soulèvement sont semées et maintenant que la dissolution est derrière nous, c'est à nous de choisir de quelle manière nous voulons voir le mouvement fleurir. Lecture à voix haute de François Grange, membre du comité local Romans-sur-Isère.
Accaparement des enclosures aux mégabassines. Le développement du capitalisme a été facilité par un mouvement croissant d'accaparement des biens communs par une minorité de possédants, tantôt sous des formes violentes, tantôt en déguisant la brutalité d'une appropriation indue sous des instruments juridiques créés pour la circonstance. Que l'on songe à sa forme la plus connue, le mouvement des enclosures en Grande-Bretagne. Dès le Moyen-Âge, il a soustrait à l'usage collectif des communautés paysannes des champs et des pâtures pour les réserver à des propriétaires locaux, avec pour conséquence une éviction des travailleurs de la terre, devenus des occupants sans titre, sur les fonds qu'ils avaient mis en valeur. Le résultat fut notamment une augmentation de la surface des pâtures privées, désormais encloses, aboutissant à ce que, selon la célèbre formule de Thomas More, les moutons dévorent les gens et des peuples, non seulement les villages, mais aussi les villes. Quant à ceux qui jouissaient auparavant d'un libre accès à ces terres en commun, ils sont évincés de leur possession par la ruse ou la force. Ce mouvement d'appropriation des terres, à l'origine de ce que Marx a analysé sous l'expression d'accumulation primitive du capital, s'est poursuivi en Europe de façon insidieuse et à grande échelle jusqu'au XIXe siècle, par exemple avec la spoliation des Landes de Gascogne, une zone humide occupée et utilisée en commun par des éleveurs de moutons, expropriée par l'empire de Napoléon le Petit, dans ce qui fut en France l'un des plus grands hold-up de terre des siècles passés, non pas tant au prétexte officiel d'assainir des marécages insalubres, mais bien plutôt pour offrir de juteux profits aux grands bourgeois ayant les moyens d'acquérir les vastes domaines préemptés par l'État et de planter, pour le gemmage, la forêt de pins qui domine actuellement la région. Que l'on songe aussi et surtout au pillage des terres des populations autochtones par les puissances coloniales, notamment dans les Amériques. Dans les colonies ibériques ou avec la colonisation britannique, il s'agit toujours de mettre la main sur les terres auparavant utilisées en commun afin de créer des grands domaines agricoles ou d'évincer les premiers occupants lorsqu'ils ne cultivent pas la terre. Dans tous les cas, et dans toutes les régions où elle s'est exercée, La colonisation européenne a été le plus grand mouvement de spoliation de terres, autrefois utilisées en commun par des collectifs locaux, que l'histoire mondiale ait connu. Sous les espèces du néocolonialisme interne et de l'impérialisme des grandes puissances, le mouvement se poursuit jusqu'à présent, comme en témoigne la lutte qui oppose en Guyane des autochtones Kalina à Total pour l'implantation d'une centrale électrique solaire sur les territoires forestiers qui bordent leur village. D'autres éléments des biomes utilisés en commun continuent d'être pillés ou pollués par une minorité. Le cas de l'eau, devenu particulièrement crucial avec le réchauffement climatique, est emblématique des formes contemporaines d'accaparement. Si les soulèvements de la terre luttent aussi contre l'accaparement et l'artificialisation des terres agricoles et des forêts par la grande industrie et contre les aménagements inutiles, depuis les autoroutes jusqu'au grand cirque blanc, le combat mené avec d'autres organisations et collectifs contre les retenues d'eau de pompage et mégabassines dans l'ouest de la France témoigne de ce que le combat contre la spoliation des biens communs, né il y a plusieurs siècles, est loin d'être terminé en Europe. Avec la complicité de l'État français, pourtant condamné à plusieurs reprises pour son inaction climatique, une minorité d'exploitants a décidé de monopoliser pour l'irrigation estivale l'eau des nappes phréatiques afin d'alimenter des retenues d'eau artificielles, dont certaines aménagées illégalement, sans que l'État ait jugé bon d'exiger leur démantèlement. Plutôt que de tenter de changer les façons culturales et les espèces cultivées pour les adapter à la sécheresse chronique induite par le nouveau régime climatique, comme de nombreux paysans ont commencé à le faire, cette minorité s'efforce ainsi de perpétuer de façon déraisonnable un modèle agricole dont on voit bien qu'il a vécu. Le fait que le gouvernement emploie de façon démesurée les forces de l'État pour museler ceux qui s'élèvent contre de tels projets montre assez la continuité qui existe dans l'emploi de la violence par la puissance publique contre l'usage associatif des communs, depuis que les autorités britanniques ont voulu briser la résistance aux enclosures du XVIIe au XIXe siècle. C'est que, au-delà du réflexe pavlovien de la protection d'intérêts privés contre le bien public, le gouvernement a peut-être su discerner derrière les mouvements luttant contre l'accaparement des communs, et plus généralement derrière l'existence de territoires alternatifs comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, une menace mortelle contre le modèle social et économique dévastateur de la planète et profondément inégalitaire dont il est expression la plus ailée. Philippe Descola. Autonomie. Mot difficile, mot piégé, au sens multiple et parfois contradictoire. Parlera-t-on de la liberté individuelle du sujet moderne? Assurément non. De la décentralisation, notamment régionale, du fonctionnement de l'État? Pas davantage. De l'autonomie des luttes ouvrières à l'égard des partis et des syndicats? Pas exactement, même si l'on sait combien les dynamiques italiennes des années 70 ont pu irriguer. Parlons plutôt du sens que les zapatistes du Chiapas donnent à ce terme. Pour eux, l'autonomie consiste à déployer et défendre des manières de vivre qu'ils éprouvent comme leurs. une liberté collective qui suppose rien de moins que de tenir à distance les logiques destructrices de la marchandisation capitaliste et les formes de dépossession induites par la représentation étatique. Malgré d'immenses difficultés, ce que les zapatistes ont construit dans les territoires rebelles du sud-est mexicain est l'une des expériences d'autonomie les plus remarquables de la période récente. Par sa radicalité, son extension géographique, une région comme la Bretagne, et sa longévité, 3 décennies. L'articulation entre autonomie politique et autonomie matérielle dans une logique de subsistance est essentielle. Dans le sillage du soulèvement armé de l'Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le 1er janvier 1994, 150 000 hectares ont été repris aux grands ou moyens propriétaires. Des terres que l'on dit récupérées, car les communautés indigènes en avaient été spoliées, principalement au XIXe siècle. Bel exemple de reprise de terres. De fait, pour les zapatistes, la terre est la base matérielle de l'autonomie. Et c'est en grande partie grâce au travail collectif accompli sur ces terres récupérées qu'il est possible de soutenir l'organisation des systèmes de santé et d'éducation autonomes. Quant à l'autonomie politique, elle prend la forme d'un autogouvernement populaire avec ses assemblées et ses conseils élus, tels les conseils de bon gouvernement, qui depuis 2003 fédèrent plusieurs communes autonomes et rendent leur propre justice. L'expérience montre qu'il faut des instances et des règles partagées pour faire vivre le commun, mais aussi une grande attention à la déspécialisation des tâches et à la révocabilité des mandats, aux allées et retours entre assemblée et conseil, à la non-dissociation des univers de vie entre ceux qui assument des charges temporaires et les communautés dont ils font partie. L'autonomie zapatiste rompt ainsi avec le modèle classique de la révolution, guidé par une avant-garde éclairée et faisant de l'État le levier de la transformation. Au contraire, c'est à partir d'une dignité partagée par toutes et tous, à partir aussi de l'attachement à des formes de vie autodéterminées, que se déploie la capacité collective à s'organiser par soi-même. Ainsi conçue, l'autonomie n'est pas la liberté des modernes, pensée dans le déni des interdépendances. Elle œuvre à rebours de l'individu atomisé et dissocié du maillage relationnel qui rend son existence possible. Elle se déploie dans la pleine reconnaissance des entrelacements interspécifiques sans lesquels aucune vie, humaine ou non humaine, ne peut prospérer. Il faut donc à la fois récuser l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait que des puissances oppressives nous imposent des règles de vie, et accepter la dimension hétérotrophe de l'autonomie, soit ce par quoi on se nourrit des relations à autrui. L'autonomie n'est pas non plus l'autarcie. Elle s'ancre dans les lieux que l'on habite, dans les expériences situées. Mais cette nécessaire localisation n'implique ni enfermement localiste, ni repli identitaire. Du reste, il serait illusoire de concevoir des espaces autonomes comme des refuges douillets permettant de vivre à l'écart de la catastrophe. pour les sapatistes. Ils sont plutôt des points d'appui dans la guerre contre l'hydre capitaliste. Et si, dans la dynamique des soulèvements de la terre, la territorialisation des luttes est indispensable, il s'agit aussi de relier les combats locaux pour démultiplier les énergies collectives et engager un basculement écologique et politique radical. Dans la démarche de l'autonomie qui émerge là-bas comme ici, lutter contre et œuvrer pour sont indissociables. Construire sans résister serait aussi vain que résister sans construire serait stérile. D'un côté, une nécessité vitale absolue impose de tirer le frein d'urgence par la combinaison de diverses stratégies de blocage et de rouage du monde de l'économie. De l'autre, il s'agit de multiplier les espaces libérés, qui sont autant de mondes émergents et autant de gages de futurs désirables, alliant suffisance matérielle et plénitude créative, vie digne pour toutes et tous, et préservation de l'habitabilité de la terre. Articuler la multiplicité inhérente au foisonnement des expériences d'autonomie et la reconnaissance d'un commun planétaire qui en est la condition est ce que l'on peut entendre dans l'aspiration sapatiste à un monde où il y ait place pour de nombreux mondes. Jérôme Bachet.
On continue les lectures avec François Grange du Comité des soulèvements de la Terre de Romans-sur-Isère qui nous lit des bouts de l'ouvrage « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre ».
Terrestre. La terre se soulève. L'eau se perd dans des cycles déboussolés. Les vents se déchaînent, les sous-sols s'affaissent. Les forêts s'embrasent. Comme si la terre sabotait de l'intérieur la fiction de la maîtrise de l'abondance capitaliste. Manque d'eau pour arroser les monocultures agro-industrielles. Refroidir les centrales atomiques, fabriquer des puces électroniques, manque de terre, de forêts et de mers vivantes, manque de minerais pour assurer l'expansion énergétique de la transition. Il ne reste plus à l'ordre industriel et capitaliste qu'à accélérer la captation des ressources raréfiées, jusqu'à l'usage de la force brutale, comme à Sainte-Soline, et à laisser miroiter l'invention d'outils techniques capables de juguler les forces telluriques qu'il a déchaînées, voire de terraformer d'autres planètes. Ces soulèvements de la Terre donnent à éprouver au plus profond ce que la fiction capitaliste a nié et a fait oublier. Notre condition terrestre, l'appartenance à une toile de vie qui excède les humains, la confrontation à des forces inhumaines. Les alertes des scientifiques prennent corps. Les cadres de pensée, les univers sensibles vacillent. La modernité techno-industrielle, qui promettait de libérer les humains de leurs attaches terrestres, s'abîme dans une affolante dystopie et sème la désolation. L'injonction à briser ces liens au nom d'une émancipation à venir s'est conjuguée en réalité avec la destruction des conditions matérielles de l'autonomie, avec l'aliénation au capital. La mise à distance de la Terre, réduite à un objet, une surface à aménager, fabrique un monde de colons, excluant toute convivialité entre humains et autres qu'humains. Elle autorise la hiérarchie et le tri entre les humains. Elle nie dans un même mouvement la part spirituelle de la nature et la part naturelle de l'humain. Arpenter à nouveau les chemins terrestres, c'est retrouver les traces enfouies des vaincus de la modernisation, prendre au sérieux d'autres cosmogonies, se délester de l'anthropocentrisme en se laissant traverser, décentrer, déstabiliser par d'autres points de vue. C'est éclairer le monde de l'esprit des choses, des lieux et des vivants. L'expérience concrète des limites, la confrontation à la matière, libère de la religion de la croissance et donne à ressentir à la fois la vulnérabilité et la robustesse de nos existences. Dans les mondes terrestres, la coopération, la solidarité, l'attention, le soin ne sont plus de nobles intentions qui viendraient de surcroît, mais des pratiques politiques et poétique de première nécessité. Elle renouvelle nos capacités d'émerveillement et nos désirs de défendre pied à pied, corps à corps, ce à quoi nous sommes liés et attachés. Pourtant, je pense que ce petit chemin de rien du tout, si modeste soit-il, est à défendre avec autant d'acharnement, de bonne volonté et de rigueur qu'on défend une œuvre d'art d'un grand auteur. Une phrase de Pier Paolo Pasolini. Penser et agir depuis cette perspective ouvre les voies d'une politique terrestre. La Terre, d'objet passif, devient une Terre active, puissante, créative, une Terre également réfractaire et non coopérative avec laquelle nous avons à composer des mondes ancrés dans des territoires, non pour s'enfermer dans des racines fantasmatiques et leur poison identitaire, mais pour les habiter, s'en nourrir et les nourrir en retour, reprendre les communs, déplacer et pluraliser leurs échelles. Faire monde et habiter la terre sont indissociables. C'est un tel ensemencement des luttes sociales, féministes, antiracistes, altermondialistes, traditionnellement socio-centrés, qu'appellent les soulèvements de la Terre. Les mondes terrestres sont en résistance. Nous sommes la nature qui se défend. Nous sommes les soulèvements de la Terre. Une clameur qui traverse les frontières sans imaginer s'approprier les intelligences et exubérances inouïes de la nature, simplement s'accorder avec elle. Comme le fit une amie de la poétesse écoféministe Susan Sachs, arrêtée et interrogée par un agent du FBI qui lui demandait « Qui fait partie de ton réseau ?» Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie, précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses, ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Susan Sachs, un texte de Geneviève Azam. Béton. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Il est composé de granulats, de sable, d'eau et de ciment. Avec de l'acier, le béton devient armé. Ce qui a permis la construction des plus grands ponts, tunnels, tours et métropoles. Routes et aéroports sont formés de sa matière, imperméabilisant par ailleurs totalement les sols. La bétonisation, symbole de la croissance économique, est aussi une arme du pouvoir politique qui utilise nos terres pour créer du capital. De l'extraction du sable, deuxième ressource naturelle prélevée après l'eau, à sa production et mise en œuvre, le béton ravage tout sur son passage. Il représente à lui seul plus de 8% des émissions de CO2 mondiales. Il participe à l'artificialisation des sols qui engloutit chaque année en France plus de 50 000 hectares de terre, chaque année. Derrière le béton, l'industrie du BTP, qui représente plus de 39% des émissions mondiales de CO2, concentre et cumule ce que le capitalisme a de plus toxique. Face aux effets dévastateurs de cette industrie, aux prises de terre, de l'aménagement et de la métropolisation, les soulèvements de la terre ont fait de la bétonisation et de l'artificialisation des sols un des axes principaux de leur lutte. D'une part, en occupant, cultivant, restaurant des terres agricoles ou urbaines menacées, et d'autre part en dénonçant, bloquant et désarmant les bétonneurs. L'extraction du sable se fait au fond des océans, des rivières ou dans des carrières, entraînant la disparition de nos plages, précipitant l'érosion et ravageant nos terres et fonds marins. La lutte du sable a retenti plusieurs fois. En 2021, 2022, juin 2023, lors de mobilisations avec l'association La Tête dans le Sable, à Saint-Colomban, pour lutter contre l'extension de plus de 70 hectares des carrières Lafarge et GSM. Projet destructeur qui menace d'anéantir le bocage et d'affecter les nappes phréatiques au profit du béton et du maraîchage industriel. L'entreprise Lafarge Holcim, mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, est condamnée en 2022 pour avoir soutenu financièrement l'État islamique, représente tous les scandales de l'industrie. Pollution massive. Arrêtée préfectoraux pour poursuivre ses exploitations, rachat par une entreprise suisse pour redorer son image. Depuis la campagne Fin de chantier par Extinction Rébellion en 2019, visant les cimenteries et centrales à béton, ces sites sont devenus des cibles récurrentes des luttes écologistes. En juin 2021, les soulèvements de la terre et Extinction Rébellion ont permis de visibiliser les ravages de la chaîne de production du béton en Île-de-France. Le Grand Péril Express, action de blocage et de désarmement de 3 centrales à béton et d'une cimenterie au port de Gennevilliers, a mis à l'arrêt les sites pendant plusieurs semaines. Cette action incroyable a pris la forme d'une occupation de 2 jours sur ces 4 sites. Elle a permis de redécorer entièrement les murs des bâtiments et les machines, de cimenter les moteurs et les rails qui approvisionnent les sites, de couper les alimentations électriques, de vider les stocks. Les projecteurs ont été mis sur l'ampleur du ravage de la bétonisation du Grand Paris, qui, en plus de détruire des milliers d'hectares de terres fertiles, a nécessité une hausse délirante de la production de béton. En novembre 2022, la liste des 50 sites les plus polluants de France a été divulguée. Elle compte 17 cimenteries. Au lendemain de cette annonce, une action spectaculaire a ciblé la cimenterie Lafarge-Holcim de Bouc-Bel-Air par 200 activistes qui ont procédé à son désarmement. Une fois encore, un site teinté de scandale, dont celui de la pollution de l'air, où ont été brûlés des milliers de pneus pour alimenter ses fours. La dernière action en date par Youth for Climate et Extinction Rebellion à Lyon en mars 2023 a ciblé l'entreprise Béton Lyonnais, qui exerce illégalement son activité et est accusée de pollution des sols et de l'eau depuis plus de 20 ans. Cibler les bétonneurs permet de visibiliser les scandales et ravages de toute la chaîne de l'industrie de la construction. Aujourd'hui, les géants du BTP utilisent l'argumentaire du greenwashing à coup de béton bas carbone ou recyclé pour poursuivre leurs activités. L'État acquiesce face aux lobbies et profite des marchés, pendant que la rénovation et les alternatives constructives restent des options marginales, alors qu'elles devraient être la norme. La multiplication de ces actions de blocage et de désarmement démontre que la lutte contre les bétonneurs ne fait que commencer. Léa Hobson.
On continue les lectures avec François Grange du Comité des soulèvements de la terre de Romans-sur-Isère qui nous lit des bouts de l'ouvrage « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la terre ».
Joie. L'eau est le nouvel or. Une méga-bassine n'est qu'un coffre-fort. L'eau est un marché vital. Comme il existe un marché de l'air, des corps, des rares terres, de l'attention qui flue, du bois, du sable, du nu. L'eau se tanque, se stocke, se banque. L'eau se fore, se raffine et se filtre. On la verra bientôt en baril, à 100 dollars le litre. Et c'est maintenant que ça commence. Il était une soif. Quand le capital parle, il s'exprime avec des lacrymaux. Il fait feu pour nous faire taire. Nous, on fait taire autant qu'on peut. Notre joie monte des ruisseaux, des tourbes, des garrigues, des friches. Elle prend souche au sein du tronc où la chevêche niche. Elle est franche sur la crête comme la course d'un chamois. Elle croit aux castors qui lovent l'eau dans leur barrage amoureux. Plutôt qu'aux digues de béton brut qui la force vers la mer en laissant le monde sec. Tous les pouvoirs ont intérêt et vocation à nous attrister. Un humain triste se brise plus facilement. La joie, ça fléchit mal. ça ne se plie guère. La joie, ça n'obéit pas. Sentir en soi s'amplifier sa puissance d'agir. Telle est pour Spinoza la joie. Il était une soif. Le globe ne se réchauffe pas, il brûle. On est des chipolatas cramés sur une grille d'aération. La mer a la couleur de l'huile. Le ciel sent la merde. Il en a la consistance, les traînées. Il pleut plus ? Dieu a tiré la chasse. Alors, climatise la forêt. Solutionne, climatise l'océan. Climatise la banquise. Climatise tes champs. Et surtout, pompe la nappe, pompe. Face à ça, c'est la colère architecturée qu'il faut atteindre. Trouver en soi la rage du sage. No basaran, no pasaran. Darmanin, le nain. Non mais, allô, quoi. FNSEA. C'est trois lettres de trop. L'outarde vous montonnez, vous tuez pour un cratère. Méfiez-vous de l'eau qui mord. L'eau va couler sous les cons. Pour vous, un brave, c'est un Robocop sur un quad. Pour nous, c'est une enfant, encore debout au milieu de vos grenades. Vénère, déterre, terrestre. Vénère, déterre, terrestre. Vous ne nous désagrégerez pas, parce qu'on ne dissout pas l'eau qui court déjà sous nos peaux, parce qu'on a encore assez de chaos en nous pour enfanter une étoile qui danse. Voici la fraction armée bleue. Voilà le combat du Wamba. Voici le mouvement des jeunes insurgés koalas. La crocodilettante et les baleines qui bossent. Voilà les lézards verts de la ZAD. Le caribou bouge de là. Le coyote boycotte et le lombricabrac. Oyez le triton à trois tons sonnant au milieu des ragondingues. Voyez la panthère des nuages, elle feule. Nous sommes des castoréadors, rouges et notre fourrure pour l'esquive, et noire la queue qui fait batte contre vos lanceurs de balles. Nous sommes le filet, la flaque, la mare, la nappe. Nous sommes l'averse à l'envers, la source et les geysers. Nous sommes la neige qui fond et la glace dans vos verres. Il était une soif. Ceux qui sont nés de la dernière pluie, ceux qui se jettent à l'eau, ceux qui passent à travers les gouttes. Choisis ton comment. Choisis ton qui. Et surtout, choisis ton quand. Moi, je crois aux bandes et au vacarme fécond des sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux ruches et aux squads. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle, quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas. Il était une joie. Une joue qu'on ne tend pas. Il était une foi en toi, en nous, en l'autonomie de nos 10 doigts. Il était une loi qui dit qu'aucune loi ne justifie qu'un seul t'appartienne, ni à lui, ni à toi. Il était un bois, un verger d'agrumes qui se soulève sous la chape de bitume si tu arraches le macadam avec quelques centaines de bras. Il était tu ne vois rien, et pourtant tu y crois. Il était une soif qui ne boit pas, qui s'étanche, en embrassant lacs et landes, en enroulant la langue qui noue et qui joliment nous noie, la langue de l'eau qui sonne oblongue et fait pousser les mangues au milieu des parkings de Hong Kong. Le vivant n'est pas une mode, un thème, un ADN code, c'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, ce serait juste d'être digne de ce don sublime d'être vivant et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Faire corps avec le maquis, la forêt, la mer, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec les accepter, nouer avec elles, s'emberlificoter. Vous, productivistes, vous êtes la nature qu'on défonce, vous êtes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce, vous êtes la lèpre de l'air, la ruine des sols, le mercure dans les sangs, vous êtes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, ok, et maintenant ? Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui trépasse puis repousse, le vivant qui tisse et qui bruisse, vif comme un bond, le vivant qui se détend. Alain Damasio.
C'était donc François Grange pour des lectures autour de l'ouvrage « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre ».